Plus qu'une fac, saison 2, des voix étudiantes sur des choses importantes. Dans cet épisode, c'est de nouveau Mélanie qui se raconte. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez écouter la première partie de son témoignage sur son quotidien millimétré d'étudiante en fauteuil dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, elle nous parle de son alternance dans le domaine de la communication publique et de la façon dont son expérience du handicap impacte sa vie professionnelle. C'est une histoire d'adaptabilité, tout de suite, dans Plus qu'une fac.
Si je devais me définir en trois mots, je dirais enthousiaste, engagée et souriante. C'est quelque chose, le sourire, qu'on me dit souvent. Donc j'imagine que ça doit être vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, la plupart du temps, c'est plus facile de sourire que de faire la gueule. J'ai eu beaucoup de mal à faire la gueule. Dès qu'il faut faire des photos d'identité, oulala, qu'il faut pas sourire, je me contente pour pas sourire. Donc vraiment, le sourire, c'est mon truc. Je suis en Master 2 de communication publique et politique, parcours animation et innovation des territoires. C'est donc la filière Infocom, les sciences de l'information et de la communication. Alors je suis l'année du bac Covid, donc voilà, je l'ai eu de manière un peu particulière. Et j'avais candidaté dans plusieurs choses, donc prépa, université, voilà. Et j'étais prise partout. J'ai eu cette chance assez immense d'avoir eu un bon niveau scolaire et je pense d'avoir eu un peu de chance parce qu'avec Parcoursup, il y a aussi un peu de chance qui joue. Et en fait, la sortie voilà, du confinement, du Covid, ne m'a pas permis d'organiser le fait de partir dès le début voilà, de mes études ailleurs que chez mes parents. Donc le choix s'est assez rapidement restreint. Et en fait, je me suis dirigée vers une licence information-communication avec un parcours enjeux culturels et patrimoniaux. En sixième, je me souviens, j'avais dit un jour, je serai journaliste. Donc, on n'était pas si éloigné que ça. Et en fait, ça a été une révélation, mais positive. C'est-à-dire que je suis très contente de ne pas être partie en prépa ou autre. Enfin, très contente. J'ai tendance à être quelqu'un qui regrette de ne pas avoir pu vivre tel ou tel truc, parce que je me dis, oh, ça se trouve, ça aurait été génial. Mais en tout cas, je suis très, très, très contente d'être partie en communication. Et la plupart des gens me disent que vraiment, je suis bien là où je suis. J'ai toujours été intéressée aussi par l'histoire, comprendre les phénomènes, voilà, les phénomènes collectifs. Mais l'histoire, parfois, me paraissait un peu trop éloignée dans le temps. L'Infocom permet d'analyser le présent avec des outils qui mélangent plusieurs disciplines. Et moi, je suis très pluridisciplinaire comme personne. J'aime pas être dans une seule discipline. Et donc, la communication m'apporte ça. La communication m'apporte aussi le rapport aux autres, surtout dans la pratique professionnelle ensuite. Voilà, être dans l'échange, être dans l'importance du langage aussi. Et donc, pour toutes ces raisons et encore mille autres, je suis très contente d'être là où je suis. Je dis pas que je suis entrée en première année de licence, je me suis dit je vais faire de la com publique. Mais en fait, je suis attachée, et c'est pas des grandes phrases, mais je suis vraiment attachée à l'intérêt général. Et je voulais surtout pas travailler dans un secteur lucratif. Enfin, lucratif au sens classique du terme. Franchement, ça correspond pas forcément à mes valeurs. Le côté espace public, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est une valeur que je porte. Et je me suis dit que la communication publique aussi allait me permettre d'être dans un environnement très différent de, par exemple, être community manager dans une entreprise avec des outils différents, avec des manières de penser différentes, des obligations différentes liées toujours à l'intérêt général, au fonctionnement de l'administration. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi la communication publique et je ne regrette pas du tout. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe ou à l'offre en fait que l'action publique met en branle, alors que ce soit l'offre médicale, l'offre culturelle, voilà, tous les types d'offres et tous les politiques publiques, ça m'a toujours passionnée. Quand j'étais petite, j'avais le magazine de ma commune ou de mon aglo qui arrivait, tout de suite je sautais dessus pour le lire, quoi. Donc ça m'a toujours intéressée. Je n'avais jamais fait d'alternance avant d'en faire là en M2, et d'ailleurs j'étais assez frileuse sur le sujet de l'alternance au départ. Je voyais pas trop comment on pouvait combiner les cours et la pratique professionnelle, enfin ça me paraissait assez nébuleux. Au final je suis devenue un peu une chantre de l'alternance, donc je trouve que ça peut être parfait. Après il faut être dans une structure qui accueille bien et qui a vraiment l'envie d'accueillir, ce qui est mon cas, puisque en fait je suis dans la fonction publique d'État, donc sur Rennes, et donc j'ai été très bien accueillie et j'adore les missions que je fais. J'ai toujours du mal à répondre à la question de qu'est-ce que tu préfères faire, parce que moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses. Alors évidemment, les tableurs Excel, c'est pas trop mon truc. Je co-gère un intranet, par exemple. Je réalise des interviews, soit écrites, soit en podcast, soit en vidéo, d'agents, pour mettre en valeur aussi le collectif. Aussi un peu l'organisation d'événements. Voilà, quelques événements en interne. Donc ça rejoint un petit peu le côté je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune. Donc c'est assez varié. Et moi, je suis très attachée à faire des missions variées. C'est quelque chose que j'apprécie. Et puis, l'adaptabilité aussi que demande la communication, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Travailler comme vivre seul, c'était un de mes objectifs aussi dans... Enfin, objectif, mais que je ne savais pas si c'était atteignable ou pas. Parce qu'en fait, je pense que pour tout un chacun, le fait qu'on va travailler, c'est une donnée un peu... Bah oui, c'est obligé, enfin, c'est évident. Alors que quand on a un handicap, c'est pas si évident que ça, en fait. D'arriver à l'alternance, c'est aussi... Je coche une case de ce côté-là. Une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qu'on a le choix ou pas de dire, enfin lors d'un entretien on a le choix ou pas d'en parler. Alors je le mets souvent sur mon CV avec un petit logo mignon fauteuil, voilà. Le fauteuil c'est assez constitutif de qui je suis, donc je trouve que c'est important de le mettre, et puis de toute manière comme ça si les logos sont pas accessibles, bon bah ça élimine de fait la candidature. Et en fait j'ai aussi un compte LinkedIn où on voit clairement que je suis en fauteuil sur des photos que j'ai pu publier, donc si la personne cherche un peu elle le saura très vite, et c'est plutôt au moment où la personne me rappelle que voilà j'explique que je suis en fauteuil. Souvent l'entrée que j'utilise c'est pour l'entretien, en fait je dis alors je vais me déplacer pour l'entretien, donc il faut savoir que je peux pas ouvrir la porte, que si que ça, et plutôt que d'entrer tout de suite en disant je vais avoir besoin d'aménagement quand je serai au travail, c'est vraiment le côté pour l'entretien, je vais avoir besoin de ça. Comme ça, ça lui donne une idée pour plus tard. Mais ça, c'est ma manière très personnelle de faire. Et puis, comme mon handicap visible, la question se pose moins peut-être que pour un handicap invisible, même si je suis attachée en général, quand je parle de mon handicap aussi, à faire émerger la partie invisible du handicap visible. Bah, tout ce que j'ai pu énumérer lorsque j'ai expliqué un peu ma journée, c'est-à-dire tout ce qu'on n'imagine pas forcément. Il se trouve aussi que j'ai un handicap invisible qui, pour l'instant, n'a pas de conséquences, mais qui pourrait en avoir. Et donc, je suis très attachée à ça, voilà, le côté handicap visible, handicap invisible. On sait très bien que le handicap, le défenseur des droits l'a encore montré, c'est la première cause de discrimination depuis 8 ans minimum. Hein, voilà. Donc j'avais quand même ça en toile de fond, même si en ciblant des organismes publics, je me disais qu'ils souhaitent être exemplaires. Je me suis dit, il faut que je saisisse tous les outils aussi que voilà, Rennes 2 et les équipes de Rennes 2 peuvent me mettre à disposition. J'ai vu passer un mail disant, voilà, il y a l'association NQT, qui va faire une permanence, un petit déjeuner avec des pour former des binômes mentors et étudiants. En fait, c'était une asso pour des étudiants qui étaient déjà bac plus 3. De fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que ça pouvait être une bonne idée d'avoir un mentor pour m'accompagner à la fois dans le ciblage de ce que je souhaitais, dans la manière dont je candidatais. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience de quelqu'un qui nous accompagne pour... trouver au mieux, même si in fine c'est aussi notre réussite, notre recherche. Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor très très efficace, très présent, qui a pu me donner des pistes aussi, et ça m'a permis ensuite de trouver mon alternance. Et je cherchais aussi un stage pour le M1. Je me suis rapprochée de Cap Emploi, le pendant France Travail pour le handicap, en fait, qui accompagne. Alors là, il y avait une mission financée notamment par l'Union européenne pour accompagner des étudiants en situation de handicap qui cherchaient soit un travail, soit un stage, etc. Et donc, ils essayent de diffuser aussi un peu à leur réseau, de nous donner des petits conseils sur est-ce qu'il faut dire qu'on a un handicap, pas dire, voilà, des choses comme ça. Grâce à leur accompagnement, j'ai aussi pu trouver un stage, mais par le passé, j'ai fait d'autres stages que j'ai trouvés par moi-même aussi. Hein. Vraiment, j'essaie de me dire, bon, quelle est la meilleure solution pour mettre la bonne dose d'énergie sans forcément être... Parce que pareil, il faut anticiper. Donc moi, j'ai besoin de savoir où je vais être en stage. Parce qu'après, il faut que je mette en place les transports, si, les auxiliaires, machin. Donc je peux pas me dire, ok, je trouve mon stage une semaine avant et puis ça va le faire. Donc il y a ça aussi. Notre régime d'alternance de mon master, donc le master communication publique et politique, c'est 2 semaines de présence en structure pour 1 semaine de cours. ce sportif, hein, on va pas se mentir. Mais non, je sais que pour plus tard, je ferai en sorte sans doute d'être à 80% de travail. Parce que bah, y a plein de rendez-vous à mettre, et évidemment, c'est sur les horaires de bureau. Donc, il y a un moment donné, bah, faut pouvoir concilier. Par exemple, dans les bureaux où je suis, j'ai fait mettre des aménagements physiques du genre des barres, une sonnette pour ouvrir la porte parce que la porte est trop lourde. Et puis, parfois, je m'absente un peu longtemps sur le temps du midi pour aller faire ma séance de kiné. Mais j'ai un cycle à horaire variable. Donc, en fait, je fais mes 35 heures simplement de manière un peu décalée. J'ai aussi une journée de télétravail qui m'est bien utile, mine de rien, pour... avoir un rythme un petit peu différent. Des petits aménagements, mais qui finalement n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, à part les aménagements physiques dans le lieu de travail, sinon le reste, c'est plutôt des facilités comme pourrait avoir quelqu'un qui a des enfants ou que sais-je d'autres, quoi. Je me verrais pas, s'il y avait pas de flexibilité, ça serait impossible à gérer, en fait. Dans l'idéal, après mon alternance, j'aimerais continuer dans la même filière où je suis, sur des missions un petit peu similaires, et pour plus tard, pas tout de suite, mais j'aimerais bien avoir des missions de management dans quelques années, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et que je suis quelqu'un qui ne souhaite pas forcément se limiter uniquement à l'aspect très communicationnel du genre, voilà, j'écris un article, j'adore le faire, hein, mais j'aime bien dézoomer un petit peu, faire d'autres choses. Enfin, en fait, ne serait-ce que le fait de pouvoir travailler, c'est déjà une énorme victoire pour moi. L'idée d'avoir mon propre salaire, donc voilà. Enfin, il n'y a pas que le salaire de la vie, mais on va dire, il y a toute l'expérience sociale d'avoir un travail que je souhaite aussi vivre, quoi. Je pense en effet que j'ai des compétences professionnelles qui sont directement issues de mon expérience du handicap, telle que moi je le vis. Parce que c'est vrai que mes auxiliaires, j'ai souvent l'impression, même si je fais appel à une agence, mais d'être manager en fait. Et en général, pas qu'avec les auxiliaires, pareil, quand je prévois mes vacances parce que j'adore voyager, et ben je suis un peu manager aussi d'un projet en fait. Et je pense en effet que ça me permet d'avoir des compétences d'organisation, comme je disais. Des compétences relationnelles parce que je dois m'adapter à plein de gens différents, sachant que les auxiliaires que j'ai, par exemple, c'est souvent des nouvelles personnes. Donc c'est-à-dire que je dois m'adapter à plein de cultures différentes, à plein de manières de voir différentes, à plein d'expériences professionnelles ou de non-expériences professionnelles aussi. Et donc tout ça... ça aide à avoir vraiment des compétences en management et voilà, des compétences rédactionnelles d'écrire aux différentes administrations. Enfin, quand j'ai un dossier lié au handicap, ou, en fait, plein de micro-compétences que je développe au cours de ma vie et en fait, que j'ai l'impression que tout le monde a, mais en fait, il n'y a que moi et d'autres personnes en situation de handicap qui vivent ça, en fait, me permet, je pense, plus tard, d'avoir des compétences en management, toutes proportions gardées, mais voilà. Je pense que le handicap m'apporte finalement une vie hors du commun. Et quand je dis hors du commun, c'est pas le mot tel qu'on l'entend dans le dictionnaire, mais c'est vraiment hors du commun. Bien évidemment, comme tout le monde, j'aurais préféré ne pas naître prématurée, ne pas vivre toutes ces expériences difficiles liées au handicap. Mais quelque part, je me dis que j'ai cette chance, avec beaucoup de guillemets, de vivre une forme de vie que d'autres ne vivraient pas. C'est aussi voilà des rencontres que je ferais pas, comme je le disais. C'est aussi une certaine forme d'incertitude très particulière envers l'avenir, parce que on sait pas dans quelle situation de handicap, enfin comment on va être au niveau santé. Alors c'est le cas de tout le monde, mais quand on a déjà un handicap de base, quand on est jeune et quand on sait que même si on n'a pas une maladie dégénérative, on va forcément vieillir plus vite, ça induit un rapport à l'espace, au temps, à la vie, qui est sans doute différente et peut-être avec plus de maturité. Et encore, ça dépend, mais moi, en tout cas, je pense que c'est un accélérateur de vie, un accélérateur de maturité. Et donc, pour ça, il y a aussi des belles choses. Après, on ne va pas non plus romantiser le handicap, mais ça apporte ces belles choses, hein. C'est vraiment une question existentielle, ça. Mais en fait, je pense que j'ai une certaine propension à être heureuse. C'est-à-dire que souvent, je râle un petit peu en bonne française cliché. Mais au fond, je suis assez heureuse. Je suis heureuse de vivre quand même dans un pays qui, même s'il y a énormément de choses à faire pour le handicap et pour plein d'autres politiques publiques et tout ça, fait des choses en fait. Et c'est, ça fait plaisir d'être, d'être dans un pays où voilà, je peux vivre qui je suis de manière libre. Et on sait très bien à quel point c'est important quand on voit dans d'autres pays, sur d'autres sujets, à quel point ça peut être difficile. Donc je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête. Ce qui me rend heureux, ça va être des petites choses. Ça va être d'avoir vécu une expérience que je pensais pas pouvoir vivre, par exemple. Ça peut être une micro-expérience, genre l'enregistrement de ce podcast, par exemple. C'est une expérience qui m'a été proposée et qui me rend heureuse, en fait. Donc, ça va être des petites expériences, ça va être une pièce de théâtre, comme je le disais. C'est des petites choses, voilà, des petites choses de la vie qui font plaisir. Alors, ce que j'espère le plus pour la société, c'est que on va prendre en compte réellement le handicap dans une perspective un petit peu anti-validiste, parce que donc le validisme, c'est de considérer le corps valide comme la norme à suivre absolument, les expériences de vie de la personne valide comme la chose à atteindre, donc sans forcément être dans un militantisme très engagé, parce que je suis très attachée à la pondération, à la nuance, mais je pense que c'est important, et aussi de percevoir le handicap dans une perspective un peu intersectionnelle, voilà, avec d'autres formes de discrimination. Et je perçois la société comme quelque chose qui est fait pour s'améliorer, même si la notion de progrès, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc le vœu que je formule pour la société, c'est plus d'accessibilité physique des locaux, parce que moi, mon handicap est physique, plus de compréhension du handicap, plus d'ouverture d'esprit à ce sujet, et du coup de toutes les autres formes de discrimination pris conjointement, parce que aussi au-delà du handicap, je suis une femme, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais évidemment que je suis aussi à la croisée de potentiellement deux formes de discrimination, et on est tous, on n'est jamais concerné que par une seule forme de discrimination. Aussi la prise en compte des aidants notamment non professionnels, parce que mon expérience de vie fait que pour moi c'est essentiel. Par exemple, ma mère et mes parents, je dis, mais ma mère s'est occupée de moi et a été obligée de cesser son travail pour pouvoir s'occuper de moi, et la prise en compte des aidants, c'est vraiment aussi central, parce qu'il y a le vieillissement de la population et voilà, d'autres situations de handicap qui sont prégnantes aujourd'hui, et donc c'est important qu'on en parle, qu'on valorise ces expériences-là aussi. Donc, le handicap peut pas être pris indépendamment de tout le reste autour. Et si aussi je suis arrivée jusqu'à l'université, et même pour le futur, c'est aussi grâce à l'accompagnement que j'ai reçu. Et pour moi, restez en bonne santé, vraiment. Si vous êtes en bonne santé, ou même si vous l'êtes moyen, mais que ça va, chérissez d'être en bonne santé. Franchement, ça fait un peu bateau, ça fait truc du 1er janvier, mais c'est vraiment hyper important de continuer à mener ma vie telle que je l'entends, de continuer à m'épanouir dans mon travail, et de continuer à être toujours aussi intéressée par plein de choses, de continuer à apprendre. Voilà, si je devais me faire mes auto-vœux pour moi-même, ça serait ça.
Plus qu'une fac, c'est un podcast de l'Université Rennes 2, réalisé par le service communication, enregistré à Radio Syllab, notre partenaire. Un grand merci à Mélanie, à qui l'on souhaite un avenir aussi radieux que son sourire.